Ok. Alors, on va aborder, je ne sais pas si vous avez reçu le mail sur le thème de notre étude. Donc le thème, c'est quoi la faute du premier homme, la faute d'Adam. Voilà. Bonsoir. Alors, on va prendre les versets. Donc vous avez des roumaches avec la traduction. Là, servez-vous. Donc pour les personnes qui viennent peut-être pour la première fois, j'explique un peu la méthode. Notre travail, donc c'est pas une conférence proprement dite, on va travailler le texte, plusieurs textes en l'occurrence, et la problématique se met à jour petit à petit. Donc c'est à travers le texte que le sujet va ressortir. Bien. Donc pour cela, nous allons voir les versets sur ce que Dieu a dit à Adam et la faute elle-même. Alors, nous allons dans la Genèse, chapitre 2, verset 15. Donc dans cette édition, c'est la page 3. Voilà. Là, vous avez tous et toutes un texte, c'est bon? Oui. Donc verset 15, je lis en hébreu et on traduit. Vaikar Hashem Elokim et Adam vayanicheu began Eden le ovda ou le shomra. Vaikar Hashem Elokim et Adam. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le servir et pour le garder, et pour le préserver, pour le servir, pour travailler le jardin d'Éden, et pour le préserver. Donc plusieurs remarques. C'est écrit « Vaikar Hashem Elokim et Adam ». L'Éternel Dieu prit l'homme. Alors, je ne sais pas s'il y a des hébraïsants, des hébraïsantes. C'est le tétragramme et Elohim. Qu'est-ce que ça signifie, Hashem Elohim? Parce que des fois, c'est Hashem, des fois, c'est Elohim, des fois, c'est Hashem Elohim. Comment? Alors ça, c'est plutôt Elohim. Mais que représente le tétragramme? Hashem Elohim. Il y a Elohim, c'est-à-dire, on pourrait dire, Balakorod Kulam, celui qui possède toutes les forces. Ça, c'est Elohim. Elohim, en français, se traduit par seigneur. Par seigneur, et des fois, quand on veut dire un seigneur qui n'est pas Dieu, oui, un seigneur, oui, on dit Elohim. Ça peut désigner un homme parfois. Elohim, c'est le Seigneur. C'est celui qui a toutes les forces, qui possède toutes les forces. Mais c'est quoi la nuance entre Elohim et Yodke Vavke?
Un attribut de miséricorde et de justice.
Ah voilà. Donc, tétragramme, attribut de miséricorde, Elohim de justice. Voilà, parfait. Donc il y a l'association, le début de la création. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, patati, c'est écrit toujours Elohim. C'est écrit Elohim. Mais lorsque on passe maintenant à l'histoire humaine, c'est écrit Hachem Elohim.
C'est la première occurrence de...
Non. Non. On voit ça tout de suite avant. Dans le chapitre Bet, verset 5. Un peu plus haut. Mais c'est au niveau de la création de l'homme. Dès que l'homme apparaît, il va y avoir Hachem Elohim. Bien. Donc, bon, pour nous, miséricorde, c'est blabla. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire justice et miséricorde? Ça veut dire en français des codons. C'est des mots un peu qui veulent rien dire pour nous. Nous, on est génération SMS. Oh, miséricorde, dis-moi. Non, ce que je veux dire, oh, miséricorde, ça veut dire quoi? Quoi ça veut dire? Quoi ça veut dire, la miséricorde? C'est quoi? C'est la misère dans les cordes. Non, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de manière simple, c'est qu'il y a la justice... La justice, ça veut dire t'as fait quelque chose de pas bien, t'as volé, on coupe la main. Il y a des pays où c'est comme ça, non? Alors, t'as volé, on coupe la main. Ça, c'est la justice. Voilà. Bien. Miséricorde, c'est t'as volé dans la Torah, dans notre tradition, t'as volé, tu rembourses. Maintenant, c'est à force, t'es récidiviste. Bon, on verra. Alors là, c'est... Il y a une justice, mais cette justice prend son temps. Voilà. Pour que l'humain fasse sa démarche, fasse son chemin. Parce que des fois, il y a... on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On fait quelque chose, on n'est pas conscient tout à fait de la gravité de la chose. Par contre, si après on nous a prévenus, on a été punis et on est récidiviste, après c'est autre chose. Mais c'est par exemple, le Talmud dit que quand Dieu punit, c'est jamais la première, sur la première et la deuxième, pour la première fois qu'on faute ou la deuxième fois qu'on faute. C'est quand on est récidiviste. C'est ça, ce qu'on appelle en français miséricorde. Voilà. Ok. Donc on reprend. Vaikar Hashem Elohim et Adam, donc le Seigneur Dieu, prit l'homme, Vayanichehu began Eden, il le plaça dans le jardin d'Éden. Que veut dire Eden? Ça veut dire quoi, Eden? Comment? Agréable, oui. Plus précisément, un petit peu. Comment? Douceur. Jardin de douceur. Hein? Adin. Adin, ça veut dire doux. Oui. Donc, il le plaça dans le jardin de douceur. Léovda, pour le travailler. Ou le Shomra, pour le préserver. Et le verset 16, donc page 4. Est très important. Et c'est notre sujet commence là. Vayutsav Hashem Elohim ala Adam les morts, Mikol etz agan achol tochel. Ume etz adaat tov vara lo tochal mimenu, ki beyom acholra mimenu mot tamut. Vayutsav Hashem Elohim ala Adam. Donc encore pareil. Là maintenant, c'est la première chose que Dieu va ordonner à l'homme. Pour le moment, il y a l'homme, il n'y a encore pas la femme, il y a l'homme. Oui, on a vu, il s'appelle Adam, c'est l'homme, il n'y a encore pas Madame. Oui, Ève n'est pas là pour le moment. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme en disant, deux points. Mikol etzagan achol tochel. De tout arbre du jardin, manger tu mangeras. Ume etz adaat tovara lotoral mimenu. mais de l'arbre de la connaissance de Tov Vara. L'arbre de la connaissance de Tov Vara. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arbre de la connaissance. Comment? N'avez-vous point compris que c'était une question piège?
Oui, bien sûr.
J'aimerais que c'est quoi, Tov Vara? Évidemment, on attend du bien et du mal. Mais la traduction serrée, c'est pas ça. Comment? Attention, parce que il y a des intégrations.
C'est une question de discernement.
Non, pour le moment, je cherche la traduction. Comment?
L'image
derrière. Et derrière, oui.
D'être savarin, c'est le mauvais penchant, oui. Donc, Tovara, c'est le bon penchant.
C'est
le bon penchant, non? Si d'être savarin, c'est.
Oui, alors, c'est bien.
Donc, Tovara, c'est le bon.
Tov, c'est. Même si on n'est pas hébraïsant forcené, on comprend. Tov, ça veut dire quoi?
Bon ou bien?
Bon. C'est plutôt bon. Ouais, Tov, c'est bon. Ouais, Tov, c'est bon. Ra, c'est mauvais. L'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est pas écrit la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bon et du mauvais. Tu ne mangeras pas. L'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu ne mangeras pas. Qui beyom acholra mimenu motamut, car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Bien. Alors, Maïmonide, au début du Guide des égarés, dans son introduction, aborde la traduction de ce verset. Quand je me permets de traduire du bon et du mauvais, et pas du bien et du mal, c'est l'introduction du Guide des égarés de Maïmonide. Il introduit dans sa préface avec la traduction du verset comme ça. Parce qu'on se pose toujours la question. On dirait, il pose la question que tout le monde se pose sans oser la demander. Et lui, il ose. On dirait que Adam, avant la faute, était un imbécile, un bon sauvage. Et après la faute, il est devenu intelligent. C'est l'impression qu'on a. Qu'il ne savait pas qu'il était nu, et machin, et bidule. Voilà. Il ne savait pas qu'il était nu. Et après, tout d'un coup, il comprit les choses. Donc, Maïmonide pose la question, au début du Guide des égarés. Il dit, c'est incroyable. Est-ce à dire qu'avant la faute, c'était un imbécile, après la faute, il est devenu intelligent? Réponse de Maïmonide. Réponse de Maïmonide, et la réponse est dans la traduction précise du texte. La réponse est la suivante. Que avant la faute, l'homme et la femme, qui va apparaître dans les versets qui viennent, l'homme et la femme agissaient selon l'ordre de Dieu. Des fois, on doit faire des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais il faut le faire. Des fois, il y a des choses qu'on a à faire et elles sont agréables. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, bien que ça soit très attirant. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire qui ne sont pas forcément attirantes. Mais l'homme et la femme, avant la faute, agissaient selon ce qui leur incombait de faire. Selon les mitzvot de Dieu. Si c'était agréable, tant mieux. Si c'était pas agréable, tant pis. Et de la même manière, fauter, il se préservait de la faute, même si parfois c'était attirant de fauter. Ou bien, même si c'était pas attirant, il ne fautait pas. Mais nos actions, souvent, sont mues par ce qui est agréable. C'est ça la démarche de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est-à-dire, n'agis pas selon ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ce n'est pas parce que c'est bon, c'est agréable que tu dois le faire. Parfois, tu ne dois pas le faire. C'est pour ça, le verset va dire dans la suite, ils étaient nus et n'avaient pas honte. Parce que même, c'est ça ce que le verset dit, et Rashi le relève, même leur relation intime entre Adam et Ève était des mitzvot. Entre l'homme et la femme, c'était des commandements de la Torah. Donc, c'était, si vous voulez, il le faisait, quand même ça pouvait être agréable, mais il le faisait parce que c'était un commandement. C'est à partir du moment où l'homme agit par trivialité, par recherche de sa sensualité, qu'il a honte. C'est pas, il le fait parce que c'est une mitzvah. Dans la Torah, il y a des commandements de la Torah. Par exemple, prendre un bon repas de Shabbat. C'est une mitzvah de la Torah. Mais c'est pas simplement, on va faire une grosse bouffe. C'est pas, on va faire une grosse bouffe. On fait un repas, c'est une mitzvah. Cette mitzvah, elle est agréable. Mais c'est une mitzvah. De la même manière, avant la faute, même être nu n'était pas un problème. Parce qu'ils étaient mus par la mitzvah. Dès le moment où ils sont mus par la recherche de quelque chose qui est agréable, alors c'est quelque chose qui devient vide et qui devient faire une action qui n'a pas de sens. C'est ça, après, ils ont eu honte. Voilà, ça c'est l'explication, en vérité, dans la traduction serrée du texte. Bon, nous allons continuer. Je reprends. Vayetzav Hashem Elokim al Adam lemor, l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en disant, de tout arbre du jardin, manger tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Bien. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à Adam? Comment? Comment?
De manger tous les fruits, sauf un en particulier.
Vous avez compris ce que dit madame? Oui. Non, vous n'avez pas compris. Je sens que vous êtes... Mademoiselle, là-bas. Oui. Vous avez compris quoi? Oui?
De manger tous les fruits, sauf celui de
là. Donc ça veut dire quoi? Là, vous n'avez pas compris. Oui.
Ils sont tous permis.
Non. Non. J'explique. Hein. J'explique. En général, on explique comme vous dites. C'est-à-dire que on mange de tout, mais il y a un qui est interdit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ordonne deux choses. Premier ordre, vous mangerez des fruits du jardin. C'est un commandement positif de manger des fruits du jardin. Mais il y a aussi un commandement négatif, de ne pas manger du fruit de l'arbre du bon, la connaissance du bon et du mauvais. Il y a deux commandements. Il n'y a pas que un commandement négatif. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Là, pour le moment, il n'y a que Adam. Dans les versets qui suivent, regardez les versets, je prends la traduction. Le verset 22, regardez. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la présenta à l'homme. Donc après, il crée la femme. Il crée la femme. Verset 25. Or, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en éprouvaient point de honte. Ok ? Bien. Maintenant, nous allons commencer le chapitre 3, verset guillemets. Vanachash aya arum mikol chayat asade asher asa Hashem Elokim. Vayomer el aisha af qui amar Elohim l'otorlu mikol etzagan. Le serpent était arum, rusé, plus que tous les animaux des champs, du champ qu'avait fait l'Éternel Dieu. C'était le plus rusé de tous les animaux du champ. Vayomer Elaïcha, il dit à la femme, Av ki amar Elohim l'otorlu mikol etzagan. Est-ce vrai que Elohim a dit « Ne mangez pas de tous les arbres du champ ?» Qu'est-ce qu'il a dit le serpent ?
Est-ce qu'il dit « Ne mangez pas de tous » ou « Certains vous ne pouvez pas manger » Est-ce qu'il est restrictif ou est-ce qu'il est en train de lui dire que le commandement positif n'est pas un commandement positif ? Il interprète le commandement « Vous mangerez » Il n'a pas dit que vous
n'aviez
pas le droit de manger les fruits du jardin.
Mais il dit quoi ?
Il dit,
c'est un gros embrouilleur. Hein.
C'est
un magouilleur de première, ce serpent. Hein. Oh là là ! Voit, l'intelligence et la magouille, ça va ensemble. Hein. On voit intelligent et magouilleur tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin.
Vous ne mangerez rien.
Vous ne mangerez rien, c'est ce qu'il lui dit.
Il dit, c'est vrai.
C'est vrai que vous mangerez rien.
C'est vrai que, regardez, il dit Elohim, il n'a pas dit Hachem Elohim, il ne mentionne pas la dimension de miséricorde. Il dit c'est vrai que le Dieu de justice a dit de rien manger. C'est vrai que vous avez le droit de rien manger. Vous savez, c'est souvent il y a des gens qui disent ça, des gens religieux. Souvent il y a des gens qui me disent, par exemple, bon, je sais pas, bon. Moi, j'essaie de respecter Shabbat. Ouais. Il y a des gens qui disent, c'est vrai que Shabbat, vous n'avez rien le droit de faire. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, ôte-moi d'un doute. C'est vrai, vous n'avez rien le droit de faire Shabbat. Alors, moi, je réponds à ça. C'est vrai, on n'a rien le droit de faire. Eh bien, c'est vrai, on n'a rien. Non, mais dites-moi, la cacheroute. C'est vrai, vous n'avez rien le droit de manger. Rien. Rien. On n'a rien le droit de manger. On n'a rien le droit de manger. À la cacheroute, c'est terrible. La cacheroute, franchement, c'est absolument terrible, la cacheroute. On n'a rien le droit de manger. Mais le serpent, toi, c'est le... C'est vraiment c'est un provocateur. Il dit, c'est vrai que Dieu a dit, vous n'avez rien le droit de manger. Alors, Ève, par contre, elle n'a pas mon culot. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui posent des questions comme ça. Moi, je réponds, franchement, c'est vrai. Rien du tout, rien de droit de manger. Alors, vous partez en vacances, vous n'avez rien de droit de faire pendant les vacances, c'est vrai, rien de droit de faire. Chapeau. Alors, verset suivant. Alors, la femme, elle a été déstabilisée. Va tomer à Isha et la Nachash. La femme répondit au serpent. Mi pri et sagan nochel. Du fruit de l'arbre du jardin, on mange. Ou mi pria etz, asher betor agan, amar Elohim, lotorlo mimenu, velo tigubo pentemutun. La femme dit au serpent, du fruit de l'arbre du jardin, nous mangeons. Il est bête ce serpent. Mais, oh là 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 là, c'est ça, on dit qu'il est intelligent. Il est pas intelligent, il est franchement bête ce serpent. Mais non, imbécile, on mange de tout. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, n'en mangez pas, n'y touchez pas, de peur que vous n'y mangez, vous ne mourriez. Alors, un grand maître, il y a une centaine d'années, Rav Meir Simcha de Dvinsk, Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, dans un livre qui s'appelle « Mesher Chochma », relève un point terrible. C'est que Ève n'a pas du tout rapporté les paroles de Dieu. D'abord, le serpent dit Elohim. Et on avait vu, c'était Hachem Elohim, l'éternel Dieu, pas Elohim. Et deuxièmement, elle dit, mais non, on mange de tout. Mais c'est de l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne mangera pas. C'est pas vrai. Dieu a dit, vous mangerez. Elle a dit, on mange, on a le droit de manger. Non, Dieu avait dit, vous avez une mitzvah de manger. C'est un commandement divin de manger. C'est complètement différent de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous voyez le bidule? Alors comment ça se fait que c'est comme ça? Et alors après ça a été la débandade, après ça a été la catastrophe. Il a dit, mais non, il raconte des bobards, mais non, vous n'allez pas mourir. C'est pas vrai, il est jaloux, il vous a interdit ça. Et finalement, elle a mangé, et Adam aussi a mangé. Voilà. Alors, Rav Mir Simcha de Novinsk dit, c'est là ce qu'on appelle la faute du premier homme. Dans notre tradition, on appelle la faute du premier homme. Chez les chrétiens, oui, ils appellent ça le péché originel, c'est la faute de la femme. C'est la femme pécheresse. La femme pécheresse. Mais dans notre tradition, on n'appelle pas la faute de la femme, on appelle la faute d'Adam. Or, Adam, on ne le voit pas fauter. C'est la dame, c'est la femme là, qui a magouillé. Mais j'aimerais qu'on fait un petit arrêt. Quelle est la différence par rapport à ce que Dieu a dit et par rapport à ce que Ève a dit? J'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on fasse un petit brainstorming entre nous. Qu'est-ce que ça change de dire comme si ou de dire comme ça? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu?
Non, Dieu il a dit, il peut le faire parce que c'est une mitzvah.
Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change que ça soit une mitzvah?
C'est pour servir Dieu. Enfin, c'est un commandement de Dieu.
D'accord, c'est un commandement de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais regardez, c'est... Elle a dit que Dieu finalement n'intervient que pour interdire des choses. D'après ce que elle dit. Elle dit, Dieu, c'est-à-dire, nous, on vit comme des hommes. Ouais, on mange des choses, on mange de tout et de n'importe quoi. Ouais, c'est sûr, on mange. Maintenant, on mange. Mais, Elohim, ouais, Elohim, dimension de justice, nous interdit des choses. Si vous voulez, elle l'a pris... que le côté interdit. Dieu intervient pour interdire. C'est pas ce que Dieu était intervenu au départ. Dieu, au départ, n'était pas intervenu que pour interdire. Certes, il y avait un interdit. Mais Dieu, au départ, n'est pas intervenu pour interdire. Prenons un exemple. Quelqu'un demande, un non-juif, demande à un juif, c'est quoi Shabbat? Voilà. On fait un... Voilà. C'est quoi Shabbat, mademoiselle? C'est quoi Shabbat?
C'est le jour de repos qu'Hachem a instauré pour le respecter, pour le servir.
Et qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On dort toute la journée?
On s'occupe des choses matérielles pour se consacrer au Shabbat.
Alors, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement le Shabbat? Comment? Enfin, ouais, enfin, oui ou non, c'est pas vraiment obligatoire d'aller à la Sina. On mange, je veux dire, comment on Shabbat. Alors, mais regardez, on prend les repas de Shabbat, on prend le tchoulint, la tafina, la srina, vous appelez ça comme vous voulez, la pkaïla, mais accessoirement, on va à la Sina, mais on prie oui ou non, à la limite. Oui. Comment? Oui ou non? Maintenant, oui, c'est bien, je veux dire, c'est bien. Mais il y a ça, il y a... Mais, bon, Mais on pourrait dire, souvent, les gens disent, qu'est-ce que c'est Shabbat ? Par exemple, on ne prend pas la voiture, ou on n'allume pas l'électricité. Bon, vous avez tapé la bonne pioche. Vous avez dit, c'est un jour de repos. C'est un côté positif, se reposer. C'est un côté positif. Mais souvent, on peut voir, qu'est-ce que c'est Shabbat ? Souvent, on dit, ah, Shabbat, on ne travaille pas. C'est le côté interdit de Shabbat. De la même manière, là, Dieu intervient. Dieu intervient. Elle dit, bon, nous on mange. On mange. Bon, ok, on mange de tout. Sauf, ouais, sauf, l'Éternel a dit, on ne mange pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est-à-dire, Dieu intervient pour un interdit. C'est pour ça que c'est écrit Elohim. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il s'était exprimé. Dieu, au départ, s'était exprimé en disant c'est un commandement de manger des fruits. C'est-à-dire, manger, c'est pas seulement manger. Vous avez déjà mangé quelque chose ? Ça, c'est... On vous a prévenu que des fois je pose des questions idiotes. Non, mais. Non, mais... Bon, je pense qu'on arrivait à l'âge que nous avons, si on a dû déjà manger. Alors, on mange. Depuis qu'on naît, on mange. Un bébé, il naît, ouais, soit il tète de sa maman, soit un biberon, tout de suite il mange. C'est tout de suite comme ça, il mange tout de suite. Donc on mange. Mais manger, est-ce que c'est une fonction simplement naturelle ou ça signifie quelque chose? Est-ce que manger, ça signifie quelque chose? Dieu dit oui. Quand tu manges, tu me sers. Tu fais mon service divin. C'est-à-dire, tu vas manger un hamburger, cachère évidemment, ouais, tu sers Dieu. Ou, je ne sais pas, le comte de la gastronomie, un sushi, oui. Dieu dit, eh bien, manger, c'est pas seulement tu manges. Manger, il ordonne de manger. Et il ordonne de manger. Mais pas seulement de manger, ça c'est un commandement positif. Ce que Rav Meir Simcha, dans son livre, dit, mitzvah l'ariot nafsho, c'est un commandement de Dieu de se donner la possibilité de vivre. C'est pas seulement il faut bien manger. Non, manger, c'est quelque chose de positif. Il y a un investissement positif dans le fait de manger. C'est vrai que nous, quand on mange, on ne se rend pas compte. On mange comme ça, c'est machinal. Ou alors, les Français, il y a la gastronomie. Alors ça, la gastronomie, attention, la gastronomie, ça c'est une religion ici en France. Ouais, c'est la gastronomie. Bon, peut-être, il faut y avoir... C'est quelque chose. Mais le fait de manger simplement, c'est Dieu nous dit que c'est faire sa volonté que de manger. Mais il n'y a pas que du positif, il y a un interdit. Ce qui est remarquable, c'est que quand le serpent magouille, mais Ève a défaut, elle est déstabilisée, elle dit non, on mange de tout. Elle ne dit pas du tout que c'est un commandement divin de manger. Elle dit on mange. Ouais, c'est comme tu dis, dis-moi, toi t'as fait de chouva, hein, t'étais pas religieux, maintenant t'es devenu religieux. Maintenant que t'as plus le droit de manger, rien du tout. Hein, non, on mange plein de choses. Mais non, on mange presque tout. Mais, c'est sûr, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Eh ben, c'est pas ça. C'est manger plein de choses, c'est un commandement divin. Ce qui est étonnant, comment ça se fait que Ève n'a pas rapporté le commandement divin que Dieu avait dit au départ? Le grand maître Rav Meir Simcha dit, parce que Adam lui a pas enseigné. Adam lui a pas enseigné. Il n'a pas enseigné le commandement positif de manger. C'est pour ça que nous, dans notre tradition, on appelle ça la faute d'Adam et pas la faute de Ève. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu a créé d'abord Adam et ensuite Ève. Parce que Adam C'était ça sa responsabilité, de transmettre le côté positif. Et il ne l'a pas fait.
Donc elle n'a pas entendu la parole.
Elle n'a pas entendu.
Ah, mais si vous n'avez pas dit ça.
Ah, mais ça, petit à petit. Il ne faut pas s'arrêter au début du film. C'est nouveau. J'ajoute quelque chose. Voilà. J'ajoute quelque chose. Alors maintenant, pour comprendre ça...
Mais alors si elle n'a pas entendu, pourquoi elle rajoute ne pas toucher ? C'est elle interprète ça, non ?
Pourquoi elle rajoute ne pas toucher ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment on peut répondre à cette question ? Comment ? Oui, mais peut-être qu'elle est, elle n'a qu'une relation de crainte par rapport à Dieu. Quand on a une attitude de crainte, qu'une attitude de crainte, craindre Dieu, c'est un commandement de la Torah. Mais il y a deux commandements. Il y a craindre Dieu et aimer Dieu. Va'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras Dieu. Mais quand tu n'es que dans une attitude de crainte, donc tu as une attitude de peur, de trouille. Donc peut-être qu'elle, de peur de transgresser, alors elle en a rajouté. Parce qu'elle n'a qu'une attitude de crainte. Alors pour comprendre ça, pour comprendre bien dans les tripes le problème là, il y a un passage du Talmud que j'aime beaucoup, qui... me semble, va nous aider un petit peu à comprendre quel est le problème. Je vous passe ça. J'ai fait des photocopies. Jessie, on a déjà étudié ça, hein ? Non ? Ça ne vous rappelle pas ? Souvent, les passages du Talmud, les passages de la Gemara, les passages même légaux, permettent de comprendre des problématiques subtiles et, je dirais, métaphysiques. Quel est le problème qu'on vient de parler ? Je pense que le passage qu'on va voir va nous mettre un peu dans l'ambiance du problème. C'est un passage d'Avkouftet Amoudbet dans le traité Roulin. Le chapitre 8 du traité Roulin parle de l'interdit de manger la viande avec du lait. Bassar Bechala. On n'a pas le droit de manger Bassar Bechala. Ok ? Alors regardez. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne avant la fin de la page. Alors, Amrale Yalta le Rav Nachman. Yalta, c'est une dame qui s'appelle Yalta, c'est pas un port en Crimée. Oui. Yalta, c'est la femme d'un grand maître du Talmud qui s'appelle Rav Nachman. Et le Talmud va rapporter un dialogue entre Yalta et son mari Rav Nachman. Donc Rav Nachman était le grand maître de son époque. C'est la base de l'étude de la Torah. C'est quoi la base de l'étude de la Torah ? Voilà, une question simple, un peu bête. C'est quoi le principal de l'étude de la Torah ? C'est orienté, hein, ce que je veux dire.
C'est
bon ?
C'est le moral.
on étudie la Torah. Les hommes ont une obligation d'étudier la Torah. Les femmes étudient, mais elles n'ont pas le commandement de la Torah d'étudier la Torah. Les hommes ont la mitzvah stricte d'étudier la Torah. C'est une mitzvah. Quand l'homme étudie la Torah, il accomplit un commandement de la Torah. Comment ? C'est une mitzvah égale obligation. Obligation juridique. Un type, il passe son temps, il fait rien, ouais, il regarde la télé, la cinquième saison de Dr House, ouais, il perd son temps, il devrait étudier la Torah. Il a une obligation, mitzvah égale obligation juridique d'étudier la Torah. Maintenant, cette obligation, quel est le but de cette obligation ? Quel est le summum ? Le summum, si je peux me permettre, je vous donne ma version des choses, est d'arriver à trancher la loi. Trancher la loi. Un juif, quand il étudie, c'est certes pour comprendre la Torah, mais pour arriver à être décisionnaire. Quand il étudie, il doit arriver à des conclusions légales. C'est-à-dire, l'étude de la Torah, ce n'est pas seulement spéculatif. Il y a des choses spéculatives, il y a des choses extrêmement intéressantes. Mais le but, c'est que ces choses très intéressantes se concrétisent dans la vie, dans l'existence. Voilà, c'est comme ça, là, là. Arriver à trancher là. Rav Nachman, dans le Talmud, grand maître du Talmud, Rav Nachman était un grand décisionnaire. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est un décisionnaire ? Comment ? Un pot sec. Et c'est quoi l'intérêt d'un pot sec ? Comment ? Oui. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose, si vous voulez, de très, très important. Dans la vie, on est confronté à plein de questions tout le temps. Et pouvoir décider, c'est vraiment les grands maîtres du peuple juif. C'est ceux qui sont capables de décider. C'est ça ce qu'on appelle un poste. Rav Nachman était un grand décisionnaire dans sa génération. Le grand décisionnaire. Alors, sa femme lui a dit la chose suivante. Amrale Yalta. Amrale Yalta et Rav Nachman. Mirde kol de asarlan rachmana sharalan kevate. Donc, elle dit à son mari. Étant donné que tout ce que Rahamana nous a interdit. C'est quoi le mot Rahamana ?
C'est le Hachem sous sa forme miséricordieuse. Non, Manout, c'est de la miséricorde.
Miséricorde, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est miséricorde.
C'est une miséricorde.
Comment ?
Miséricorde.
Oui. Regardez, Yalta, elle dit le contraire de Ève. Ève, elle a dit, Elohim nous a interdit. Mais elle, Yalta, c'est une grande coquine. Elle va dire le contraire d'Ève. Elle dit, étant donné que tout ce que Rahamana, que le miséricordieux nous a interdit, Sharalan Kevate, il nous a permis son équivalent. Elle dit à Rav Nachman, ouais, cher mari, cher maître, et mari, en l'occurrence, étant donné que tout ce que le miséricordieux nous a interdit, il n'y a rien qui est interdit qui n'a pas son équivalent permis. Exemple. Asarlan Dama. Dieu nous a interdit le sang, c'est-à-dire le sang de l'animal est prohibé. Pour manger de la chair d'un animal, on sale la viande pour enlever le sang. On n'a pas le droit, c'est interdit par la Torah, de manger le sang d'un animal. Bien. Alors, pour ce qu'on appelle cachériser, donc pour manger de la viande, par exemple, si on met de la viande au feu vif, elle est grillée, donc ça enlève le sang. C'est cachère. Ou bien, si on le met à la casserole, il faut d'abord saler la viande pour faire dégorger le sang de la viande, ensuite on la met dans la casserole. Ça, c'est ce qu'on appelle cachérisation de la viande. Bien. Donc on a dit, le sang est interdit. Dieu nous a interdit le sang. Mais Sharalan Keveda, Mais quelqu'un, par exemple, il veut goûter le goût du sang. Alors, le foie d'un animal, c'est cachère. Or, le foie, c'est vrai qu'on cachérise le foie, mais le foie est finalement gorgé de sang. Et le foie, c'est une boule de sang. Et même si tu le cachérises, il y aura toujours le goût du sang. Si vraiment tu voulais cachériser à fond le foie, mets-le à la poubelle. Or, les Chachamim nous disent comment le cachériser. La cachérisation du foie est relativement superficielle. Un grand maître, le Ran, Raminonissime de Gérone, apprend cette phrase, que la cachérisation du foie est seulement d'ordre rabbinique et pas d'après la Torah. C'est pour ça que la cachérisation du foie est relativement légère. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle dit, cher Marc, tout ce que le miséricordieux nous a interdit, Dieu nous a permis son équivalent. La preuve, le sang est interdit. Le sang est interdit. Par exemple, le boudin, ouais, c'est interdit. Mais par exemple, le foie, c'est permis. Le foie de bœuf, le foie de veau, tout ça, c'est complètement permis. Voilà. Alors regardez, je n'explique pas tous les cas parce qu'ils sont complexes. Chelev bema, chelev chaya. Quand on abat un animal, il y a certaines graisses qui sont interdites. Par exemple, sur les tripes. Sur les tripes, il y a beaucoup de graisses interdites par la Torah. Alors, dans les communautés séfarades, il y a des gens qui savent bien enlever les graisses sur ce qu'on appelle, en yiddish, on appelle les kishkesh. Kishkesh. C'est-à-dire, sur les tripes, je crois que c'est le hakod, le hasban, c'est donc les tripes, on enlève des graisses. On n'a pas le droit de manger les graisses comme ça, les tripes comme ça, il faut enlever les graisses. Ces graisses sont gravement interdites. Donc, dans les boucheries kachères, il y a des délégués du rabbinat qui sont chargés d'enlever ces graisses interdites. Bien. Maintenant, par contre, sur des animaux sauvages cachères, ces graisses sont permises. Alors pourquoi ces graisses sont interdites? Parce que lorsque on offre un sacrifice au temple, c'est ces graisses-là qu'on met sur l'autel du temple. C'est le relève qu'on met sur l'autel du Beth Amikdash, du temple. Donc étant donné que normalement elles vont sur l'autel du temple, donc la Torah nous dit, tu n'en manges pas pour toi. Tu as le droit de manger l'animal, mais pas ces graisses-là. Par contre, il y a des animaux cachers dont on n'offre jamais un sacrifice au temple. Exemple, le chevreuil, la gazelle, le cerf, la biche. Oui. Bon, vous me direz, on n'en mange pas tous les jours, mais la graisse qui se trouve sur les tripes de ces animaux est complètement cachée. Alors, elle dit, Yalta dit à son mari, étant donné que Dieu nous a interdit les graisses des animaux domestiques. Mais si moi j'ai envie de manger, de goûter le goût de cette graisse, voilà, c'est possible. On mange du chevreuil. Bon, on met l'argent, ouais, on envoie un chochet dans la forêt. Par exemple, vous savez, autour de Paris, il y a des chevreuils. Vous avez déjà vu des chevreuils dans la nature hein? Forêt de Rambouillet, forêt de Chevreuse, on en voit souvent. Alors, on va là-bas, avec un lasso, on attrape un chevreuil, on demande un copain chochette, il fait la shrita, et on mange la graisse. On s'éclate. On invite tous les copains, venez manger la graisse de chevreuil. Vous allez nous faire ça une fois? Voilà. Donc c'est possible. Quelqu'un, il dit, ah là là, ça me manque. C'est interdit, mais ça me manque. J'ai trop envie de manger le goût des tripes, mais pas en enlevant la graisse. Je veux les tripes avec la graisse. Elle dit, c'est possible de le faire. Encore autre chose. La Torah nous interdit l'adultère. C'est connu. L'adultère, c'est connu. Hein? Demandons à DSK ce qu'il en pense. Mais, non, enfin, c'est... Bon, je blague, hein. Si on blague pas, là, on s'endort. Il est quelle heure? Ouais, il faut blaguer un peu. Alors, l'adultère est interdit. D'accord. Mais par exemple, une femme divorcée, c'est permis. Quelqu'un, il veut goûter le goût d'une femme mariée. Il épouse une femme divorcée. Elle a déjà eu un homme dans sa vie. Ce côté-là, finalement, ça l'excite. Alors, Yalta dit, c'est possible. Vous savez, c'est très important. C'est très important. Il y a des cultures chez qui le divorce est encore aujourd'hui interdit. Je sais pas, en Italie, ça fait 10 ans que c'est permis, un truc comme ça. Je sais pas, en Italie, c'est très très récent. À Monaco, c'est encore interdit. À Monaco, si je ne m'abuse, j'ai lu ça dans le Gala la semaine dernière. Non mais, non mais vous savez, c'est interdit, hein, Monaco.
Je peux me permettre, il y a des veuves aussi dans ce cas-là.
Comment ?
Il y a des veuves.
Non. Parce que la veuve, non, la divorcée, c'est plus complexe, parce que l'ex, il se balade quelque part. C'est ça. L'ex se balade. Et c'est complètement permis. Mais c'est très profond. C'est très profond, il faut comprendre. Encore autre chose. Groucha Bechaybala, c'est-à-dire la femme divorcée du vivant de son ex-mari. C'est ça ce que la Gemara dit. Maintenant, la femme de son frère, c'est un inceste très grave. C'est-à-dire, épouser, il y a son frère, il y a deux frères, Réhouven, Shimon. Réhouven épouse Rachel. Bien. Et ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Réhouven et Rachel ont des enfants. Réhouven meurt. Son frère Shimon n'a pas le droit d'épouser la veuve de son frère. C'est un inceste. Par contre, si son frère meurt sans enfant, c'est un commandement de la Torah d'épouser. Ça s'appelle le Lévira. Ça devient même un commandement. Donc, il y a des choses qui sont interdites, mais qui peuvent devenir permises. Autre chose. Koutit. La non-juive est interdite. Un homme juif n'a pas le droit d'épouser une non-juive. Par contre, il y a des fois dans la Torah où c'est possible, ça l'a yéfat toar. C'est un cas extrêmement précis. Un cas extrêmement précis où, dans un cas de guerre dont la Torah parle, quelqu'un a le droit d'épouser une non-juive. Le roi David a épousé, dans des cas de guerre, des non-juives. C'est d'une femme comme ça que Abshalom est né. Abshalom, sa mère, était une non-juive qu'il avait épousée à la guerre. Bon, ok. Donc on voit tout ce que Dieu a interdit, et Dieu est dit, le miséricordieux, parfois, il y a toujours l'équivalent permis. Il dit, Chazir, le porc est interdit. Le porc est interdit. Par contre, quelqu'un, il dit, moi j'aimerais goûter le goût du porc. Ça, je ne sais pas, ça m'obsède. Le porc, c'est interdit. Chazir, c'est interdit. Mais à quoi ça ressemble, la côtelette de porc? Dites-moi, est-ce qu'on peut trouver en permis le goût de la côtelette de porc? Alors, elle dit Yalta à son mari, oui, Mora de Shibuta, il y a un poisson qui s'appelle Shibuta, il a exactement le même goût. Il est permis, il a exactement le même goût. Alors maintenant, elle dit, puisque c'est ainsi, cher mari Rav Nachman, j'aimerais goûter le goût de la viande cuite dans du lait. Please. J'aimerais. À quoi ça ressemble, la viande cuite dans du lait? La blanquette. Ouais, la blanquette. À quoi ça ressemble?
Il n'y a pas
de soja là-dedans. Non, mais à quoi ça ressemble? Il lui a répondu, voilà. Bainan, c'est la quatrième ligne avant la fin de la page. Bainan le michal basra bechalba. J'aimerais manger de la viande dans du lait. Yalta, elle dit à son, la femme du grand rave, elle dit, j'aimerais manger la viande dans du lait. Amar Léo Rav Nachman est affré. Rav Nachman, on voit dans le Talmud, c'est un homme riche. Il a dit à ses cuisiniers, Zoykula Kahle, allez nous préparer un pit de vache. Le pit de vache, c'est le sujet de la Nagmara. Le pit de vache. Alors, le pit de vache, si vous voulez, messieurs et mesdames, manger du pit de vache, cachère évidemment, alors il faut, la Gmara va dire dans la suite, il faut le fendre, le presser pour le faire dégorger du lait qui est gonflé à l'intérieur. Mais une fois que vous avez pressé et dégorgé, on a le droit, c'est tout à fait cachère. Or les glandes du pit de vache, c'est ce qui fabrique le lait, c'est exactement le goût de la viande dans du lait. Rav Nachman, il dit à ses cuisiniers, Maestro, un pit de vache, avec deux pailles. Voilà. Bien. Ça, c'est le passage du Talmud. Alors, le Talmud nous rapporte ce dialogue entre Yalta et sa femme. On peut se poser la question. Qu'est-ce que le Talmud vient nous enseigner ici? Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est, cette femme qui est... Il aurait pu dire, mais laisse-moi tranquille avec... Madame a des envies, ça va, laisse-moi tranquille. Pourquoi il va réfléchir et trouver une solution à la demande de Yalta? Quel est le dialogue? C'est quoi ce dialogue? Quel est le problème? Quel est le problème qui est en jeu ici?
Savoir s'il y avait un substitut à Edstor par...
Oui, alors?
Alors, est-ce que Hachem nous a donné un substitut à cet arbre-là dont on ne mange pas? Sinon, mourir, tu mourras. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le jardin ou ailleurs pour qu'on ait l'équivalent? Si on vraiment on meurt dans le monde.
Mais c'est quoi le dialogue? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme?
Elle veut démontrer que on peut, en fait, vivre malgré tous les interdits, respecter les interdits et néanmoins ne pas souffrir de ces interdits si jamais on a une envie pressante de les... contourner.
Quel est l'enjeu de ça?
Moi, je sais qu'il ne pouvait pas être frustré.
Comment?
C'est-à-dire qu'il y avait... qu'on n'a pas à être frustré, finalement, qu'on peut tout faire, finalement. C'est-à-dire qu'on a toujours un moyen de faire les choses.
Alors, c'est quoi les interdits de la Torah? Il y a quand même des interdits. Il y a quand même des interdits. Je ne sais pas, moi... manger, je ne sais pas, il y a les Chinois, ils mangent des ailerons de requin. C'est strictement interdit. Le caviar, c'est strictement interdit. Il y a des choses strictement interdites. Alors, comment dire, c'est quoi ce blabla? Non, ce que vous dites, il dit, mais, comment dire, pour un judaïsme non frustré, voilà, elle prône un judaïsme non frustré. Mais, ok, mais il y a quand même des interdits. Alors, c'est quoi? C'est quoi l'enjeu? Alors, c'est quoi le sens des interdits? Si vous voulez, ici, c'est juste ce que vous dites. Ici, l'enjeu de ce passage, c'est quoi un interdit? Lorsque Dieu interdit quelque chose, si on peut s'exprimer ainsi, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'un interdit, je dirais, est là pour, et je pense que c'est d'une actualité terrible ce texte. Ce texte est d'une actualité terrible. Hier, avant-hier, je ne sais pas, il y a 3 jours, 4 jours, Kadhafi a été buté. D'accord? Bien. Avec l'aide de l'OTAN. Il n'est encore pas enterré. Oui. Le porte-parole du gouvernement transitoire dit « Ok, maintenant, nous mettons la charia. » Nous mettons la charia. Moi, j'y connais rien, qu'est-ce que c'est vraiment la charia. Mais le droit islamiste. C'est très, très rigolo. Entre parenthèses, ça, que quelqu'un m'explique que les ennemis de l'Occident ont été mis. Moi, je m'en fous que l'Occident se casse la figure. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais que l'Occident ait installé ses ennemis, ouais, c'était prévisible. Eux-mêmes mettent en place leurs propres ennemis. J'aimerais que quelqu'un m'explique la logique de la chose, hein, entre parenthèses. À part ça, ça leur a coûté une fortune en armes, en technologie invraisemblable. Ça veut dire que ça fait du travail, ces armes, il faut les écouler. Mais quand même, c'est un truc incroyable. En tout cas, première chose, Kadhafi a été à peine lapidé, il n'est encore pas enterré. Le type dit, voilà, il faut savoir qu'en Libye, le droit qu'il va avoir en vigueur, ça va être la charia. C'est-à-dire que il y avait une société comme ci, comme ça, ou en Tunisie comme ci, comme ça, ouais, qui se cherche entre la modernité et gérer l'archaïsme. Eh bien, face à l'Occident, on met la loi de Dieu. Bien, c'est quoi la loi de Dieu? Moi, je ne sais pas, je ne parle pas de l'islam, j'y connais rien. Mais c'est quoi la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Dieu dans l'histoire? On pourrait dire qu'on est dans une société permissive. Il y a eu, en Occident, une permissivité à tout craint. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a, je ne sais pas, l'invention de la pilule, l'invention de ceci, l'invention de cela, des trucs invraisemblables. Tout est possible. À un moment, ouais, le retour du religieux, retour de Dieu. Retour de Dieu, on l'a vu, il y a 40 ans, 50 ans, tout le monde disait, Dieu est mort. Dieu est mort, c'est fini, on ne parle plus de Dieu. Nietzsche a gagné, Dieu est mort. Tac. Les pays communistes s'écroulent, maintenant on ne parle plus que de Dieu. C'est incroyable. C'est un truc incroyable, on l'avait oublié celui-là. On l'avait oublié. Ouais, on l'avait oublié. Retour incroyable. Maintenant, est-ce que, et même, il y a même des juifs, j'ai entendu, il y a même des juifs qui retournent à leur tradition, ce qu'on appelle des balais de chouva. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a des gens qui n'étaient pas religieux et qui deviennent religieux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Mais quel est le but de ça? Quel est le but? Est-ce que, finalement, on est des êtres qui ne paumés, on va dire, il y a la drogue, le sexe n'importe comment, machin, alors, bon, on a, comme vous dites, on a besoin de limites. Voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin de limites? Est-ce que les interdits de la Torah sont là pour cadrer l'homme, pour dresser l'homme, oui. ou bien, les interdits de la Torah, c'est autre chose. Ou bien c'est autre chose. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ça ce que Yalta, elle dit à son mari. Cher mari, qui est un grand décisionnaire, un grand homme de loi. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta loi? Tu es possèque, tu dis ça c'est moutard, ça c'est assour, permis, cachère, pas cachère. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux, face à un monde bizarre, insaisissable, où tout est possible, tu veux mettre des normes, tu veux... Mais des limites? Tu me mets des limites? Cadrer, coloniser le monde? Ou bien autre chose? Est-ce que c'est Elohim? Dimension de rigueur, de canalisation des choses? Ce qu'on dit souvent? Ou bien c'est Hachem Elohim? C'est Rahamana. Ou bien c'est autre chose. Peut-être que c'est autre chose. Eh bien moi, j'ai envie de kiffer dans la vie. J'ai envie de jouir de l'existence. Qu'est-ce que tu me réponds? Il n'y a pas de problème, Moshe. Pas de problème. On va trouver de manière permissive. Alors, c'est quoi l'interdit? C'est quoi l'interdit? Il me semble, je propose la chose suivante. Avant de proposer, je dirais encore quelque chose. Maïmonide, dans les lois de Shabbat, dit quelque chose de sublime. Rambam, Rabbi Moshe Bar Maïmon, était un de nos plus grands décisionnaires, un de nos plus grands possèques, les plus grandes décisions. À l'intérieur de son livre de loi, des fois il explique certaines choses. Nous savons que si la vie est en danger le jour du Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah de ne pas faire Shabbat pour sauver la vie. On arrête Shabbat, ça veut dire on arrête, ça veut dire on prend la voiture, mais quand tu prends la voiture, tu n'es pas obligé de mettre l'autoradio, tu comprends? Non, ça veut dire tu prends la bagnole, oui, ou c'est même plus simple de prendre un taxi. Bon, nous, en ville, c'est plus simple de prendre un taxi parce que c'est pas nous qui conduirons, parce qu'après ça va être un problème, éteindre le moteur, tout ça. Enfin, Maïmonide dit que si une vie est en danger, la Torah nous enjoint de repousser Shabbat pour sauver cette vie. Et Maïmonide dit pourquoi? Parce que la Torah et Shabbat n'est pas une vengeance que Dieu a par rapport au monde, mais il nous apporte Tova, Bracha, Veshalom. Il nous apporte bienfait, le Shabbat apporte, et les mitzvot de la Torah nous apportent bienfait, douceur, comme jardin d'Éden, douceur, bénédiction et paisibilité. Mais ce n'est pas, dit Maïmonide, une vengeance par rapport au monde. D'où Maïmonide a-t-il trouvé ce terme vengeance? Vengeance, en général, c'est comme ça qu'on perçoit les interdits. On perçoit les interdits que c'est une vengeance. C'est-à-dire, le monde est mal foutu, on va le cadrer par des normes. Les interdits de la Torah, ce n'est pas une volonté de normer les choses. Et on peut maintenant se poser la question fondamentale. Pourquoi, quand Dieu donne des commandements à Adam et ensuite à Adam et Ève, pourquoi ce sont des commandements que liés au manger? C'est bizarre. Pourquoi, quand Dieu dit un commandement positif, un commandement négatif à Adam et ensuite à Adam et Ève, pourquoi ce sont des commandements que liés au manger? Je propose d'expliquer comme ça. Le manger est quelque chose je dirais, sur lequel on a peu de réflexion. Qu'est-ce que c'est le fait de manger? Comme j'ai dit tout à l'heure, on mange depuis qu'on est né, on ne réfléchit pas. C'est vrai, nous, les juifs pieux, avant de manger, on fait une bénédiction après, une bénédiction avant, une bénédiction après, avant de manger du pain, on fait Netilat Yadayim. Ok, il y a des bénédictions. Mais c'est quoi le fait de manger? Le manger, je dirais, c'est le lien le plus fort qu'on a avec le monde. C'est l'expérience du monde. On mange le monde. C'est incroyable quand même. C'est une expérience. L'interdit est là pour nous éveiller justement au fait que nous sommes en train de faire une expérience et pas quelque chose d'instinctif. L'interdit est là comme révélateur de qu'est-ce qu'on est en train de faire. En vérité, comme dit Yalta, tout était possible, tout ce qui est interdit a l'équivalent en permis. Comme vous avez dit, mademoiselle, tout à l'heure, que Dieu n'est pas là pour nous frustrer. Je prends un exemple. Mon épouse fait extrêmement attention à ça, qu'il y a des choses qui sont des fois pas faciles à préparer d'un point de vue kashrout. Des choses qui ne sont pas forcément faciles. Mais ce n'est pas parce que Bon, il faut voir le temps qu'on a. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vraiment facile à faire qu'on doit s'en priver. On va faire un effort, mais on ne s'en privera pas. Je ne sais pas, de la salade ou certains légumes, il faut vérifier qu'il n'y ait pas des bestioles dedans qui sont interdites. Mais alors on va faire attention, on va faire l'abdika, la vérification qu'il n'y ait pas de bestioles, et on les mangera. On va pas élaguer. Voilà, ça on mange pas, ça on mange pas. Non, on va faire des efforts et on va manger des choses. Le manger est une expérience dans le monde. Dieu a créé l'humain avec des besoins. Mais ces besoins, c'est une manière de découvrir le monde, d'avoir une connaissance des choses. C'est une connaissance. J'expérimente le monde par le fait de manger. C'est une expérience intime. C'est une découverte, le fait de manger. Une découverte du monde dans lequel je suis. Il n'y a pas même de plus grande découverte. J'ingère la chose. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une connaissance des choses. Mais pour avoir conscience de qu'est-ce qu'il y a à chercher là-dedans, pour découvrir la chose comment elle est, Dieu nous donne des interdits. Ces interdits ne sont pas une volonté de cadrer l'humain, de discipliner l'humain. C'est une possibilité d'éveiller de qu'est-ce que je suis en train de manger. Je ne mange pas n'importe quoi. Par exemple, dans la cacheroute, on doit s'éveiller à plein de choses. On doit s'éveiller à plein de détails. Quels sont les animaux interdits, les animaux pas interdits. On doit, par exemple, des fois, je suis allé plein d'années avec mes enfants au salon de l'agriculture. Bon, je ne suis pas tellement paysan à part ça. Mais je vais, par exemple, pour voir quels sont les poissons cachers, les poissons pas cachers. Maïmonide dit, c'est un commandement de la Torah de savoir discerner quel poisson est cachère et quel poisson n'est pas cachère. De connaître les choses, c'est une expérience. S'il n'y a pas l'interdit, les choses n'ont pas de signification. Il n'y a pas de révélateur. L'interdit n'est pas un but en soi. L'interdit est de nous signifier que l'expérience, ce que nous vivons, c'est une découverte des choses. L'interdit est un révélateur de cette découverte des choses. S'il n'y avait pas l'interdit, ce serait insignifiant. L'interdit va révéler la signifiance que nous avons dans l'expérience que nous avons du monde. Et ça, c'est ce que Yalta dit à son mari. Toi, tu es un homme de loi. Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de goûter le goût. On pourrait dire, attends, tu sers Dieu. Qu'est-ce que tu en as à faire de goûter telle chose? Eh bien, justement, c'est par le goût que je peux expérimenter le monde que Dieu a créé, expérimenter cette création. Et je pense que ça, c'était justement comme ça que Rav Meir Simcha de Lviv explique quelle était la faute d'Adam. Pourquoi dans notre tradition, on ne dit pas que c'est la faute de la femme, mais c'est la faute d'Adam? Parce que Adam, dit Rav Meir Simcha de Lviv, il n'a pas enseigné à la femme le commandement positif. On pourrait dire, il a voulu cadrer sa femme, il a voulu dominer sa femme. Et pas que sa femme participe, qu'ils vivent ensemble, on pourrait dire, une aventure de découverte du monde. Parce qu'en vérité, donner la possibilité à la sensualité, la possibilité au goût des choses, c'est une liberté. Cette liberté est dangereuse, mais c'est la vie d'un autre côté. Dieu ne nous a pas donné ses commandements pour nous cadrer, mais pour que, à travers notre existence, nous servions Dieu, nous découvrions qu'est-ce que c'est le monde dans lequel Dieu nous a mis. Et c'est ça, il nous a mis dans le jardin de délices, de douceur, les ovda pour le travailler et pour le préserver. C'est-à-dire, c'est une dimension d'une aventure. Nous sommes dans une existence où les interdits, les mitzvot positives et les interdits sont là pour donner une signification à ce que nous avons à vivre. Et c'est ça ce qu'on appelle la faute d'Adam, c'est que Adam a transformé, je dirais, cette aventure humaine que Dieu nous demande d'avoir en un système religieux. C'est ça, Elohim. C'est ça ce que dit Rav Simcha Meir de Lvivsk. Il dit, c'est sûr que c'est Adam qui l'a pas enseigné. Pourquoi la femme se serait-elle privée de dire le commandement positif? S'il y avait un commandement positif, pourquoi la pauvre, elle ne l'aurait pas dit? Donc c'est sûr que c'est Adam qui a censuré. Il n'a pas voulu que le mitzvot soit une dynamique. Il a voulu que les commandements de Dieu soient de la religion. C'est Adam qui a inventé le concept de religion. Religion, c'est-à-dire, religion, en termes latins, si je ne m'abuse, chose sacrée. C'est-à-dire, c'est une relation tétanisée par rapport à Dieu. Et c'est vrai que même nous, juifs pieux, je parle de juifs pieux, souvent, on est tétanisé par les interdits. On est « Ah, c'est interdit, c'est assourd !» Ok, il faut savoir qu'est-ce qui est interdit, précis, il faut savoir bien précisément qu'est-ce qui est interdit. Ne pas en rajouter, justement. Elle a rajouté. Ne pas en rajouter, savoir précisément qu'est-ce qui est interdit. C'est ça l'étude de la Torah. Savoir précisément qu'est-ce que Dieu nous demande, et dans le positif, et dans le négatif. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose de très, très important. Très important parce que la perception que nous avons instinctivement de la relation à Dieu, c'est la relation de Elohim, c'est-à-dire Dieu en tant que système religieux. Et ça, je dirais, en me servant du commentaire que je vous ai rapporté, c'est la faute de Adam. La faute d'Adam, c'est d'avoir transformé la parole de Dieu en système religieux. C'est quoi système religieux? Des normes pour nous apprendre à vivre. Pour, comme dit Maïmonide de manière prophétique, par dépit par rapport à la nature humaine débridée et la nature humaine un peu, ingérable, alors on met les interdits de la Torah. Mes intérêts, ça c'est pas ce que Dieu nous demande. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut voir par rapport à ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la faute d'Adam et pas la faute de Ève. C'est très très intéressant, dans les cultures occidentales, on dit c'est la faute de la femme. Pas la faute de la femme tentatrice, etc. Il n'y a pas de trace de ça du tout dans notre tradition. Très très important, très important. Au contraire même, la femme est là, comme on voit à Yalta, pour provoquer l'homme dans sa volonté de pouvoir, sa volonté de gestionnaire de l'humanité. J'ai coutume de dire que Yalta, on pourrait dire dans ce passage de Talmud, répare la faute, finalement. Elle répare la faute. Cette femme, c'est sympa d'ailleurs, parce qu'on avait étudié ça il y a quelques années, et de mes amis, ils ont appelé leur fille Yalta. on la voit dans d'autres endroits dans le Talmud, mais toujours pareil, provocatrice. Je n'ai pas rapporté l'autre texte, parce que c'est... Il faudrait rapporter encore d'autres matériaux. Bon, voilà. Il y a des questions.
C'est clair.
Bon.
C'est clair et intéressant.
Merci.
Non, mais c'est vrai que on sort du schéma habituel de la faute d'Ève.
Ah, voilà.
Et en même temps, on rentre dans une conception dynamique du commandement. Quoi. Le commandement n'est pas pour le. C'est pas l'interdit pour l'interdit, mais c'est un interdit qui va.
Mettre en relief.
Oui, voilà.
Il va mettre en relief, c'est-à-dire lorsqu'on va manger, nous, juifs de la Torah, quand on va manger quelque chose, on va s'intéresser, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'aliment que j'ai en face de moi? Comment il est composé? Quels sont ses composants? On va s'intéresser, ce qu'on va manger, c'est pas simplement, comme disait Ève, on mange. Non, qu'est-ce que c'est ce qu'on mange? Il correspond à quoi? C'est quoi ce manger?
Elle ne savait pas et qu'elle a mangé. Mais Adam, il savait pourquoi elle a mangé. S'il savait, alors pourquoi il s'est laissé quand même?
Le Midrash dit qu'elle lui a fait, elle voulait manger. Parce que justement, quand ça devient tellement rigoureux, ça ne devient que de la crainte et pas l'amour lié à la crainte. Quand c'est tellement rigoureux, l'homme ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Je vous donne un exemple. Nous, on est dans une société, On voit ça de manière très concrète dans la vie juive. L'Occident chrétien, catholique particulièrement. Je ne suis pas un grand connaisseur hein, des autres traditions. Je ne suis, suis pas un connaisseur, c'est pas mon boulot. Je veux dire, il faudrait demander à un curé. Mais d'après ce que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu, par exemple, la contraception, l'avortement sont strictement interdits dans le catholicisme aujourd'hui. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est strictement interdit. Même, par exemple, la pilule du lendemain est strictement interdite dans la tradition catholique. C'est tellement interdit que, sauf quelques personnes irréductibles gaulois, ouais, personne, en tout cas dans les pays occidentaux, peut-être dans des pays Brésil ou je ne sais pas quoi, Portugal, c'est plus respecté. Mais dans les pays occidentaux, de culture catholique, ils ne le respectent pas. Comment ? Alors, chez les juifs, la halakha ne correspond pas du tout à ça. La halakha, je vous conseille, nous avons fait une journée d'études sur ces sujets dans notre centre. Je vous conseille de voir sur notre site une conférence, qu'est-ce qui est permis et interdit sur ces sujets, qui est sur notre site, c'est dans yeshiva.com, notre site yeshiva.com, il y a une conférence de Rav Touretsky sur, par exemple, sur des sujets, comme je viens de dire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. J'ai fait venir pour cette journée d'études, c'était pour, sur le couple, un décisionnaire justement, qui prenne position par rapport à des sujets. Comment c'est dans notre tradition? Vous y étiez, mademoiselle? Qu'est-ce qui est précisément permis, qu'est-ce qui est précisément interdit? Non, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est permis et interdit. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas là pour faire quelque chose de permissible, mais je vous donne un exemple. J'écris tout un opuscule là-dessus, sur le statut de l'avortement dans la tradition juive. Je ne sais pas s'il est sur notre site. Mais Rav Touretsky a dit, il y a, donc, on a fait cette journée sur le couple, et des gens nous ont écrit par notre site internet, par des mails, pour poser des questions relatives au couple, mais des questions précises. Il y a un de mes élèves qui est prof de maths dans un lycée juif. Prof de maths. Ça arrive. Il est bon, il est pieux, mais il est prof de maths. Bien. Il donne un cours de maths à une jeune fille de seconde. La jeune fille de seconde lui dit, j'ai oublié de prendre la pilule, qu'est-ce que je peux faire, monsieur? Bon, est-ce qu'elle avait le droit de se mettre dans cette situation? Non. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Rav Touretsky lui a dit, elle prend la pilule du lendemain. C'est tout à fait licite. C'est pas seulement c'est licite, il faut qu'elle le fasse. On peut expliquer, c'est pas le sujet hein, ce soir. C'est pas le sujet. Le statut de l'embryon, etc., dans la tradition juive, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, dans notre tradition, c'est extrêmement développé. Pas tout est interdit. Des fois, c'est permis. Des fois, il faut le faire. Des fois, c'est strictement interdit. Mais il faut savoir précisément. Il y a une connaissance précise. Une connaissance précise qui n'est pas tout est interdit. Justement, si tout est interdit, l'homme ne peut pas le faire. C'est Hachem Elohim. Et dire, et c'est grave, c'est pour ça que nous, on avait organisé une journée d'études là-dessus. C'est grave parce que nous, on est dans une culture où les gens s'en foutent du catholicisme, grosso modo, sauf quelques extraterrestres. Mais on est malgré tout dans une culture empreinte d'une ambiance comme cela. Et nous, on croit que la tradition juive est du même ordre. Et c'est strictement erroné. C'est pas du tout ça. Et ça se sent dans cette discussion entre Yalta et sa femme. Elle dit, attends, mais on n'est pas là. On n'est pas là pour s'embêter, on est là pour vivre. Alors maintenant, et c'est pas seulement on est là pour vivre, Dieu nous le demande. C'est ce que Dieu nous demande. Alors maintenant, j'aimerais goûter le goût de la viande dans du lait. Et l'autre, il dit, bon, attends, je vais te trouver. Il réfléchit, il dit, amenez le pied de la vache. Voilà.
Je vous pose une question. Oui. Yalta fait allusion, vous l'avez dit, par Achakite, tu sais, quand il est dit, à la guerre, tu pourras prendre une épouse
non juive. Dans des conditions précises. Hein.
Mais si elle dit, moi je veux savoir le groupe, ça a tué quelqu'un, je peux aller à la guerre pour le voir, est-ce qu'on s'arrête, tout dans cette autorisation? Parce que j'ai le droit de tuer.
Oui, des fois, c'est une obligation de tuer.
Oui.
Des fois, il y a des mitzvot de tuer.
Non, d'accord, j'entends bien. Mais là, il s'agit de goûter le monde. Est-ce que dans le fait de tuer, on peut dire qu'on est en train de découvrir le monde de...
Oui, c'est bien.
Oui.
Oui. Tuer, parfois, peut être une expérience humaine positive.
Ah oui.
Parfois, on voit justement le roi David. Le roi David était quelqu'un qui avait des pulsions agressives terribles. Et on dit qu'il a mis ses pulsions agressives au service de Dieu en tuant des impies. D'ailleurs, il en a tué tellement que ce n'est pas lui qui a construit le premier temple, mais son fils Salomon. Shlomo, où il y a le mot Shalom. Mais lui était trop, on pourrait dire, agressif.
À cause de Bathsheba, si...
Non, c'est parce qu'il a trop tué. Quand bien même aurait-il tué de manière licite, et pas seulement de manière licite, de manière de mitzvah. Je ne sais pas. Si y a des, on est en danger, il y a des gens qui nous... je vous donne un exemple. Dans la Seconde Guerre mondiale, nous savons que beaucoup de nos frères ont été massacrés, ont été dépassés par les événements. Il y a un grand rabbi chassidique, Rabbi Shlomo de Radzin, qui lui a dit, il faut prendre les armes. Le Rabbi Shlomo de Radzin est mort les armes à la main. Mais il a tué des Allemands. Il en a tué. Il n'en a pas tué beaucoup, le pauvre. Il n'en a pas tué beaucoup, mais il a tué. Je pense que dans certaines circonstances, j'ai connu des gens qui étaient au maquis des frères Bielski. Vous avez entendu parler des maquis des frères Bielski? J'en ai connu, qui étaient au maquis. Dans certaines circonstances, tuer est un service de Dieu. Quelqu'un, je ne sais pas, aujourd'hui, il dit, j'ai besoin de tuer. Eh bien, peut-être il peut faire des mitzvot dans certaines circonstances. Il peut goûter qu'est-ce que c'est tuer dans le service divin. Personnellement, je n'ai pas cette fiction. Je ne fais qu'enseigner. Je ne fais qu'enseigner.
Ça ne veut pas être du chemin 100% dans un
cas. Comment ?
Ça ne veut pas être du chemin 100% dans un cas pareil. Il est d'Anna pour lui-même, le rituel.
C'est une question importante. Est-ce que le signe de faire quelque chose de vraiment pour Dieu, est-ce que ça exclut le fait d'en tirer quelque chose? C'est une grande question. Ça dépasse un peu le cadre.
C'est
une question importante. Oui.
Mais si le bonhomme il fait ça pour lui le tuer parce qu'il a envie de se défouler, je crois qu'il n'a pas fait la misère. C'est pas la canaouse.
Oui, non, c'est vrai. Mais, si tu veux, il peut mettre sa pulsionnalité au service de Dieu. Peut-être que c'est un service divin très élevé. S'il le fait pour ça, ça c'est ambigu. Il peut mettre au service divin ses dimensions pulsionnelles. Ok,
oui,
merci. Je m'excuse, mademoiselle, si c'était un peu compliqué, hein, mais bon, c'est la vie. Hein.
Ça, parce que la nourriture est essentiellement la couleur du monde. C'est pour retrouver le créateur ou c'est juste pour découvrir la vie ce que HM nous a proposé ou c'est pour remonter jusqu'à la source? C'est quoi en fait? Parce que ça passe plus par la nourriture, j'ai remarqué.
C'est vrai.
C'est trop là.
C'est vrai.
C'est quoi la nourriture? Ben, c'est la subsistance.
La nourriture, c'est un... Si vous voulez, il y a quelque chose de paradoxal dans le fait de manger, c'est que c'est machinal.
Oui, c'est on mange.
C'est machinal. Mais c'est notre vie. C'est, on ne peut pas vivre sans manger. Mais manger, c'est on, Vous vous rendez compte, d'un certain point de vue, on mange le monde. C'est fou, on passe le monde par notre bouche. Oui. Au revoir.